L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion en direct à midi et rediffusée à 18h. Une dernière émission de la saison en compagnie de l'EPAGA, l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'Aulne et de l'Yerres. Avec eux, on va souvent dehors, sur le terrain, c'est bien normal. Aujourd'hui, nous irons plutôt dans les champs, les prés, dans les exploitations agricoles, où l'EPAGA intervient aussi. On connaît les liens entre l'agriculture et l'eau. Les deux ont besoin l'une de l'autre et on va d'ailleurs explorer ça en compagnie de nos invités. On va découvrir aussi ce que l'EPAGA fait concrètement sur le terrain, donc avec les agricultrices et agriculteurs, pour une meilleure qualité de l'eau, pour la régulation des crues, l'adaptation aux sécheresses, pour l'adaptation au changement climatique. C'est en compagnie de Jean-François Sarraud, élu de l'Andelot et de l'EPAGA, ancien agriculteur, Philippe Arnaud et Jean-René Tanguy qui sont chargés de mission agro-environnement pour l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'Aulne et de l'Yerres. Bonjour à tous les trois.
Bonjour. Bonjour.
On va commencer par la vaste question qui ne va pas durer 26 minutes. Quelles sont les interactions entre l'eau et l'agriculture? Il y en a qui sont évidemment évidentes et d'autres qui le sont peut-être moins. Jean-François Sarraud?
Alors peut-être d'abord dans un premier temps présenter ce qu'est le bassin de l'Aulne.
Qu'on a déjà présenté dans les précédentes émissions, mais oui,
un rappel. Ouais. Parce que c'est ce qui fait lien entre l'eau et l'agriculture. C'est un territoire qui fait en gros 1900 km², qui comprend 89 communes. Et qui a un linéaire de rivières et de canaux de l'ordre de 525 km. Donc c'est ça l'ordre de grandeur. Et c'est ce bassin versant qui démarre aux confins des Côtes d'Armor, qui est en périphérie du Morbihan, et qui vient à l'exutoire ici en Côte de Brest. Donc c'est un territoire qui est très vaste et qui draine l'intégralité des eaux qui tombent sur ce territoire. Alors le lien entre l'eau et l'agriculture, c'est d'abord une question de partage des ressources. Cette eau, elle tombe sur le territoire. Il nous faut la gérer dans sa qualité, dans sa quantité, pour que chacun des utilisateurs puisse en tirer le meilleur, en obtenir le meilleur. Il faut aussi savoir que le territoire de l'Aulne abreuve, bon an mal an, ou permet au tiers de la population du Finistère d'avoir accès à l'eau en quantité et en qualité.
En matière d'eau potable.
En matière d'eau potable.
Mmh. Oui, comment ça se répartit d'ailleurs, l'eau potable, l'agriculture et d'autres usages, je ne sais pas, industriels, en gros, dans le bassin versant, c'est un tiers, non oui.
Je ne pourrais pas vous répondre à cette question.
Ouais. Dans cette répartition stricto sensu, mais en tous les cas, tous ces usagers, qu'ils soient industriels, dans les diverses formes que peuvent comprendre l'industrie, l'agriculture et les citoyens, ont accès à cette eau. Et l'année 2022 nous a alertés sur, au regard de la sécheresse, nous a alertés sur les risques nouveaux de ce que pourrait être une privation d'accès à l'eau.
Oui, parce que les liens entre l'agriculture, c'est d'abord que l'agriculture, concrètement, elle a besoin d'eau hein, pour tous ses usages et pour, au final, transformer l'eau en nourriture, c'est ça?
C'est ça.
Mais il y a aussi d'autres liens, alors qui sont plus l'agriculture, une régulation de l'agriculture par rapport à l'eau. Enfin, l'agriculture a plusieurs façons d'utiliser l'eau, c'est ça.
Alors l'eau, l'agriculture a besoin d'eau sur l'ensemble de la période, et c'est un besoin vital. L'agriculture n'a pas besoin de trop d'eau, mais n'a pas non plus besoin de trop peu d'eau. Donc la fonction d'un outil comme l'EPAGA, c'est de gérer la régulation des flux, la retenir quand c'est nécessaire, j'ai bien dit, par des ouvrages techniques. Mais l'agriculture a aussi une fonction qui a été oubliée et qui va redevenir essentielle parce qu'au regard du changement climatique, il va falloir s'adapter à retenir un maximum et de façon naturelle cette quantité d'eau qui tombe de façon irrégulière, mais aussi être capable de la mettre à disposition après qu'elle ait été filtrée par le sol et qu'elle ait été infiltrée jusqu'à la nappe pour revenir et réguler, tamponner ces excès de crues ou de sécheresse.
Oui, parce que selon les types de production, on a de l'eau qui est restituée enfin, au cycle de l'eau. Enfin, c'est une régulation climatique en fait, que peut jouer l'agriculture. Un rôle de régulation climatique. C'est ça ?
Pardon. Oui, bien sûr. Elle doit partager, elle doit gérer et réguler ses flux de façon à ce qu'ils soient disponibles à chaque fois que nécessaire. Et tout ce qui sera régulé de façon biologique, organobiologique, par les fonctions du sol, cette capacité qu'a le sol à retenir en fonction de sa richesse en matière organique, parce qu'en fait, ça n'est que ça, hein, et les fonctions biologiques, qui sont les facteurs de régulation. Et c'est cette affaire qu'il nous faut repenser, parce que c'est ce qui sera le moins coûteux à la société pour gérer ses besoins.
Ce qu'on appelle les fameux services écosystémiques. Philippe, c'est quoi, par exemple, des exemples de la façon dont l'agriculture peut restituer de l'eau, garder de l'eau
C'est juste pour rebondir sur le propos de Jean-François et dire qu'en fait, c'est la problématique du carbone. Stockons le carbone dans les sols, ça enrichit le taux de matière organique et ça stocke l'eau. Donc, c'est un cercle vertueux. Et effectivement, il faut augmenter les taux de carbone dans nos sols. C'est une priorité prioritaire.
Ouais. Et selon la façon dont on cultive, ça s'évapore plus ou moins aussi, c'est ça ? Enfin, on peut donner des exemples aussi là-dessus, non ? Pour vraiment que les auditrices et auditeurs comprennent en quoi l'agriculture peut stocker ou pas l'eau.
Alors, pour prendre une image, quand on parle d'exploitation, on fait souvent référence à l'industrie, aux mines. On mine les ressources fondamentales, le charbon, le pétrole, le gaz. Eh bien, l'agriculture, dans sa fonction d'exploitation, de façon triviale, elle mine juste le carbone stocké par des millénaires d'activités biologiques, de couverture permanente des sols. Et c'est ça qui fait actuellement la richesse de l'agriculture, pour l'essentiel. Après, évidemment, qu'on a des moyens de corriger par des apports exogènes, mais le fondamental est bien cette fonction carbonée du sol, qui est consubstantielle des questions d'énergie, puisque c'est la plante qui va capter l'énergie solaire pour en faire des sucres qui vont nourrir l'intégralité de l'activité biologique. Donc, cette fonction-là est repenser le sol, passer du statut d'exploitant, parce qu'à un moment donné, quand le sol n'a plus de matière organique, c'est un désert, on ne doit pas l'oublier, et les excès climatiques vont accélérer le processus de désertification. Donc, c'est cette question qu'il faut prendre à bras-le-corps dès maintenant, pour inverser le paradigme de déstockage du carbone à régénération des stocks de carbone, amélioration, et donc forcément à générer des équilibres beaucoup plus performants pour gérer cette question essentielle de l'eau, mais aussi de la production et aussi du changement climatique.
Et vous parliez des végétaux, mais les animaux, enfin l'élevage a un rôle aussi à jouer dans ce... Enfin, les formes d'élevage, pareil, hein, dans l'utilisation de l'eau.
C'est-à-dire, le point central, c'est la production du végétal. Et c'est le végétal qui sera transformé par l'animal. C'est une chaîne trophique. Et l'animal a une fonction de transformation, donc il va lui-même croître à partir de ce végétal qui n'est exploitable que par les ruminants, enfin, globalement, les animaux, et qui va servir gratuitement de stockage. C'est-à-dire que cet animal va consommer de l'herbe fraîche aux périodes estivales, et il sera en situation de... Le cycle normal de la vie, il va croître, et il sera en situation de nourrir l'homme ensuite dans la chaîne trophique. Donc c'est tous ces éléments en continuité qu'il faut repenser globalement pour arriver à quelque chose de soutenable.
Alors pour ça, il y a des programmes, c'est ça. Et les PAGA appliquent justement des programmes. Alors c'est vous, Jean-René Tanguy, qui allez nous parler de ce programme, c'est ça ?
Oui, je vais vous en parler parce que moi je suis arrivé à les PAGA pour la mise en place du premier programme agro-environnemental et climatique en 2016.
Alors PAEC.
Ouais, en acronyme, c'est PAEC, Programme agro-environnemental et climatique. Donc le terme climatique est vachement important par rapport à ce qui vient d'être dit.
Oui.
Donc, c'est vraiment la capacité de l'exploitant agricole à s'adapter aux changements de pratiques au niveau de son exploitation en tenant compte de tous les facteurs qu'il y a, que ce soit les facteurs économiques et le climat.
Alors, c'est surtout l'agriculteur qui va s'adapter aux changements climatiques. Est-ce que dans les objectifs du plan, il y a aussi faire en sorte que l'agriculture contribue à un meilleur climat ? Je caricature, mais...
Ben, globalement, oui, parce qu'un des fondements de ce programme, c'est on parle de, aujourd'hui, on parle d'autonomie alimentaire sur l'exploitation, c'est-à-dire d'être capable d'adapter sa masse d'animaux par rapport à ce qu'on produit sur l'exploitation.
Mmh. Donc que les animaux se nourrissent sur la ferme uniquement.
Voilà, tout à fait, oui. Donc, on reprend en considération tout ce qui est la notion sol. Et il y a des fondements qui ont été oubliés ces dernières années, c'est tous les fondements agronomiques.
Alors, est-ce qu'on peut en citer des exemples de ces fondements qui ont été oubliés ?
Ben, comment dire, on en a parlé, c'est tout ce qui est matière organique dans le sol, qui est indispensable pour éviter d'avoir des sols qui se transforment en sable.
Est-ce que c'est le cas déjà ? Est-ce qu'on a constaté dans le bassin versant de l'Aulne que des sols s'appauvrissaient ?
Ben, les études ou les analyses qui sont faites par les exploitants agricoles, on se rend compte comme que depuis 30 ans, on a une baisse du taux de matière organique dans les sols. Et c'est vraiment une adaptation de la production par rapport au potentiel qu'a le sol à produire des végétaux.
Et en plus, il y a des conséquences, j'imagine, en termes de pur ruissellement de l'eau, c'est ça
Ah ben, de toute façon, tout est lié au niveau du sol. Dès le moment qu'on dégrade un sol par un appauvrissement en termes d'équilibre, que ce soit avec la micro-macrofaune ou les nutriments ou les matières qui constituent le sol, on se rend compte qu'il y a des problèmes d'érosion derrière, du ruissellement et d'érosion.
Même si ce n'est pas votre partie immédiatement, mais bon, enfin, c'est la partie de l'EPAG, hein. C'est un des sujets de l'EPAG.
Comment dire, ce sont des sujets que nous, on doit maîtriser pour pouvoir vraiment faire l'animation au niveau la sensibilisation au niveau des exploitants agricoles par rapport à la mise en œuvre de pratiques.
Alors, c'est un programme qui a une durée de 5 ans. Ça a commencé quand ? Ça termine quand ?
Le programme, donc, on a une programmation 2016-2022. Et là, donc, depuis début 2023, on est sur une nouvelle programmation qui est liée aussi...
Deuxième
programmation, ouais. Qui est liée à la politique agricole commune.
Ah oui, c'est la PAC qui lance ces programmes-là, c'est
voilà,
ça ?
Voilà, ouais, ce sont des programmes qui sont conjoints à la politique agricole commune.
Et ça consiste en quoi pour les PAGA ? Qu'est-ce que vous faites concrètement ?
Bah, le rôle de notre rôle à nous, c'est de sensibiliser les agriculteurs à ce genre de programme. Bon, Philippe en parlera tout à l'heure. Donc de les rencontrer et de leur proposer des solutions, ou plutôt de les amener à réfléchir sur ce qu'ils font au niveau de leur exploitation.
Bon, alors Philippe, allez-y, donnez-nous. C'est vous qui intervenez, c'est ça ? Vous allez voir toutes les agricultrices et agriculteurs, un par un.
On se partage le territoire avec Jean-René. Bon, moi, je suis arrivé il n'y a pas très très longtemps, en janvier, donc pour la mise en œuvre de ce nouveau programme. Donc l'année 2023, c'est une année charnière, puisque c'est l'année de lancement. Donc il faut mettre vraiment le paquet pour aller faire de la sensibilisation auprès des agriculteurs.
Recruter des volontaires, parce que c'est volontaire.
On peut dire ça comme ça, oui, recruter des volontaires ou les sensibiliser aux mesures qu'ils peuvent contractualiser et leur expliquer les bénéfices qu'ils peuvent en attendre. Donc le travail, c'est effectivement d'aller les rencontrer, de faire un diagnostic d'exploitation, puisqu'en fait, le plus important, c'est de bien comprendre comment fonctionne l'exploitation. Et à partir du moment où on a une bonne image de l'exploitation et des attentes de l'agriculteur également, il faut intégrer le côté un peu sociologique, hein, et les motivations de l'agriculteur, en brassant tout ça, on est capable de proposer à l'agriculteur quelques mesures parmi cette boîte à outils, puisqu'en fait, il y a une quinzaine de mesures au total qui sont plus ou moins adaptées d'ailleurs au territoire. Il y en a qui marchent bien, d'autres qui marchent moins bien.
Intéressant ça. Ouais.
Bah oui, elles ne sont pas toutes... Typiquement, la mesure herbivore qui vise l'autonomie fourragère, ça c'est la mesure phare qui marche vraiment très très bien.
Les bovins laitiers ou
tout
en viande
tout mammifère ruminant.
Moutons,
équidés, tout.
Ça marche bien. Donc
ça marche très bien.
Trouver une autonomie sur sa ferme.
C'est ça, c'est le but.
Ça marche bien parce qu'il pleut suffisamment encore pour l'instant, c'est ça, non ? Comment ça se fait que ça marche bien sur notre...
Cette mesure est bien adaptée à des modèles qui fonctionnent sur notre territoire. elle est bien calibrée, quoi, donc elle fonctionne bien.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme mesure ? Bien adaptée ou pas, d'ailleurs ?
On peut aussi parler des mesures qui fonctionnent bien. Il y a l'entretien des haies. C'est vrai que les PAGA travaillent au niveau des haies sur deux tableaux. D'abord, la création de haies, de linéaires. Ça, c'est le programme Braise Bocage.
Dont on a déjà parlé dans une autre émission.
Voilà. Et nous, les MAE arrivent derrière.
MAE, donc, mesure
agri-environnementale et climatique, MAEC, si. Pour justement accompagner et favoriser un entretien durable des haies et conserver notre bocage, en fait. Hein, voilà.
Oui, parce qu'il faut rappeler aussi l'intérêt, tant qu'on y est, hein, rappelons l'intérêt d'avoir des haies en matière...
Vous posiez tout à l'heure la question de l'importance de l'agriculture sur le climat. Typiquement, les haies, elles ont une importance majeure, un effet majeur sur le microclimat. On ne va pas parler du climat planétaire, bien entendu. Mais à l'échelle de l'exploitation, il y a un effet majeur au niveau du microclimat.
On voit fleurir des champs, enfin là, en fait, des champs qui sont entre guillemets en jachère, mais qui sont couverts de... Je sais pas ce que c'est d'ailleurs comme plante. Ce sont des couvertures, c'est ça, hein. Quel type de plante vous préconisez, vous, à l'EPAGA pour couvrir un champ qui attend?
Aujourd'hui, la préconisation se fait en fonction de la typologie de l'exploitation. C'est sûr que si vous prenez une exploitation agricole, on va l'inciter à avoir le maximum de surface en herbe en fonction de ses orientations.
Le mieux, c'est l'herbe.
L'herbe, c'est un terme qui englobe beaucoup de choses, oui, parce qu'aujourd'hui, c'est des préconisations de mélange de graminées, de légumineuses, qui permettent à l'agriculteur aussi d'avoir un stock fourrager par rapport aux animaux qu'il a à nourrir sur son exploitation. Donc il y a toute une réflexion à avoir là-dessus. Après, si on est sur des exploitations hors sol, donc production porcine, tout ça, on fera en sorte aussi que les agriculteurs aient leur sol couvert en permanence par donc la mise en place de couverts végétaux après la récolte des moissons, la récolte des maïs. Donc là, je voulais rebondir sur le type de mesure qu'il y avait, parce qu'il y a une mesure dont on parle très peu, c'est la mesure semi-directe sous couvert permanent.
Qu'est-ce que c'est, ça ?
Donc, c'est-à-dire d'avoir la capacité à planter une culture ou semer une culture dans une prairie, par exemple. On peut semer du maïs dans une prairie. Donc, ce sont des choses, mais c'est vraiment, ça demande une technicité très particulière.
Donc des formations, vous proposez aussi des formations ou vous financez, le programme finance des formations
dans le cadre du programme, il y a des formations qui sont possibles aux agriculteurs. Donc après, il y a un groupe au niveau breton qui se développe énormément. C'est anciennement le groupe Technique Culturelle Simplifiée qui aujourd'hui est aussi un laboratoire de recherche, mais porté par des agriculteurs.
Et ça n'a pas de rapport avec la ferme expérimentale de Trévarez? Non, vous ne travaillez pas avec eux spécialement
Non, ce groupe-là, c'est un groupe d'agriculteurs qui expérimente et avec un laboratoire c'est un laboratoire avec beaucoup de retours d'expérience.
Et justement, le précédent programme de 2016-2022, qu'est-ce qui est ressorti de ce programme-là en termes d'expérience, de constat peut-être?
En termes de constat, au niveau du territoire de l'EPAGA, on a réussi quand même à conserver des surfaces en herbe, à maintenir une partie de l'élevage, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les agriculteurs sont confrontés à des réalités économiques. Donc, un des buts aussi, c'est de montrer à l'agriculteur qu'on peut préserver l'élevage bovin avec le maintien des prairies. Après, un des grands axes qui n'a pas été encore quantifié, c'est surtout une réduction des produits phytosanitaires qui était liée aussi à un cahier des charges.
Ah oui, parce que dans le programme en question, c'est aussi réduire les pesticides. Enfin, il y a aussi parmi ces objectifs réduire les pesticides. C'est pas seulement le climat et l'eau, hein.
Ouais, c'est un ensemble parce que donc, comme disait Philippe, la boîte à outils, c'est différentes mesures et chaque mesure doit répondre à un cahier des charges. Donc c'est vraiment, il y a une sensibilisation au niveau de l'agriculteur, de le sensibiliser à ce qu'il peut faire ou comment il peut évoluer sur son exploitation.
Et le cahier des charges est fait sur mesure, c'est-à-dire chaque exploitation a un cahier des charges différent, c'est ça ? Avec une subvention différente aussi, ou est-ce qu'il y a quand même un standard ?
Chaque mesure, donc, on est sur les cahiers des charges régionaux, et ce n'est pas une subvention, c'est une indemnité pour passer d'un système initial à un système évolué qui répond au cahier des charges.
Mais c'est toujours le même d'une exploitation, enfin toujours le même d'une exploitation à l'autre, ou ça peut vraiment varier, être très individualisé.
Voilà, là, je peux répondre effectivement, parce qu'en fait, les cahiers des charges sont adossés à chaque mesure.
Voilà.
Donc il y a un cahier des charges par mesure et avec des règles à respecter. Et donc, l'agriculteur, je reviens sur ce que j'ai tout à l'heure, suite à notre proposition, il décide ou il décide pas de s'engager dans une mesure. Et une fois qu'il s'est engagé, du coup, effectivement, il bénéficie d'une indemnité. Pendant une durée de 5 ans, le contrat dure 5 ans, donc une indemnité annuelle, mais évidemment, indemnité veut dire contrôle. Mmh. Donc là, notre travail, c'est, on l'a dit tout à l'heure, faire le diagnostic d'exploitation pour lui proposer à l'agriculteur les mesures les plus adaptées, mais également, et ça c'est très important, accompagner l'agriculteur pendant toute la durée du contrat.
Donc vous y allez régulièrement, quoi. Enfin, je sais pas, une fois par mois. Enfin,
non, ouais, non, à la demande.
D'accord, ok.
Et pour justement accompagner l'agriculteur et sécuriser son engagement et que en cas de contrôle, parce qu'il y aura des contrôles, c'est nécessaire, c'est inévitable et c'est logique, hein, c'est de toute façon, et c'est souhaitable même. Et bien que l'agriculteur soit en capacité à être dans les clous, quoi, complètement dans les clous, quoi.
Il y a eu combien de fermes, enfin, d'exploitation lors du précédent plan qui ont été accompagnées par les PAGA dans le bassin versant de l'Aulne?
Dans l'ancienne programmation, on était à plus de 200 agriculteurs qui avaient contractualisé une mesure.
Mm-hmm. Alors, une mesure, mais ça pouvait être deux ou trois ou quatre.
Voilà, ouais, qui était vraiment qui avait un contrat.
Mmh.
Aujourd'hui, la nouvelle programmation, à l'heure d'aujourd'hui, où je vous parle là, on est à plus de 200 diagnostics réalisés. Donc, il y a vraiment un engouement pour ce genre de mesures. Et comme disait Philippe, notre rôle, ça va être vraiment de les accompagner pour éviter qu'il y ait des problèmes lors de contrôle.
Et est-ce que les agriculteurs du précédent plan ont été des ambassadeurs du suivant Est-ce qu'ils vous ont aidé?
Je dirais qu'un agriculteur qui a un contrat qui s'est très bien passé est un ambassadeur. Par contre, d'où l'importance justement qu'il n'y ait pas de problème. Parce que c'est un peu comme dans la restauration, un client non satisfait va...
va aller à la concurrence.
va aller à la concurrence. Donc nous, vraiment, notre rôle, c'est vraiment que l'agriculteur y croit dans son contrat.
Oui. Donc là, vous diriez, dans le bilan, ce qui a bien marché, c'est la prairie, l'autonomie en herbe, c'est ça?
Je dirais que c'est le maintien de l'élevage sur le territoire par les mesures herbivores qui ont été mises en place.
Et est-ce que, par exemple, il y avait des... on ne parle pas tellement de maraîchage, bon, il n'y en a pas beaucoup sur notre territoire, mais est-ce que, par exemple, il y a eu aussi des exploitations maraîchères ou d'autres types de productions
la boîte à outils concerne toutes les productions. C'est vrai qu'on a parlé des mesures herbivores. Aujourd'hui, il y a des mesures grande culture, des mesures aussi qui sont dédiées aux cultures légumières.
Oui. Et là-dessus, un petit retour, non? Qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus?
Je peux quand même réagir en allant en ayant fait des diagnostics. Effectivement, il y a à l'issue des diagnostics, certains agriculteurs où on constate d'un commun accord conjointement que il n'est pas opportun de contractualiser ou que les mesures ne sont pas adaptées à la situation de l'exploitation. Il faut être pragmatique. Et effectivement, les maraîchages diversifiés, les mesures MAEC, mesures agro-environnement et climatique, elles sont peu adaptées aux exploitations de petites surfaces. Et très diversifié. Par contre, effectivement, en culture légumière plein champ, il y a vraiment des mesures très adaptées là, par contre, qui peuvent marcher. Mais en maraîchage diversifié, c'est pas très très adapté. Mais il y a d'autres moyens dans la PAC pour pouvoir être accompagné quand même, quoi.
Et donc, les volailles et les porcs, est-ce qu'ils ont participé quand même à ce plan-là?
Oui, moi j'ai des agriculteurs de l'ancienne programmation, des éleveurs de porcs, des céréaliers, qui étaient entrés dans des démarches agro-environnementales.
Et dans les profils peut-être des gens qui sont candidats à ces programmes-là, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Est-ce que c'est plutôt des jeunes, des moins jeunes? Enfin, est-ce que c'est générationnel ou pas?
Je vais peut-être vous répondre. Ça va de l'agriculteur de 20 ans à l'agriculteur de 67 ans. Et ça va de la petite exploitation de 7 hectares à l'exploitation de 500 hectares.
Oui, vous avez tout le monde, mais est-ce que vous êtes des dominantes quand même?
Non, pas vraiment. On peut pas segmenter. Ouais. Disons que les données qu'on a aujourd'hui ne nous permettent pas d'avoir cette analyse encore.
Bon, de toute façon, vous reviendrez. Hein, on va attendre 2-3 ans, par exemple, pour voir un peu comment ce plan-là a évolué.
Ouais.
Jean-François Savoy, un petit mot de conclusion?
Écoutez, comme vous l'avez compris, l'EPAGA est en train d'évoluer pour accompagner ses agriculteurs, enfin se donne les moyens, pour accompagner ces agriculteurs pour que, d'une fois de plus, la ressource en eau, tant d'un point de vue qualitatif que quantitatif, soit préservée au mieux et soit régulée au mieux. Ça, c'est l'élément fondamental. Tout à l'heure, juste un petit aparté, pour quand vous parliez de résultats, le sol perd en moyenne 17 tonnes par an et par hectare.
De matière organique, c'est ça ? Enfin, de matière.
Le sol.
Ouais. C'est l'érosion.
Érosion éolienne, ça, ouais. Érosion ouais. Hydraulique.
Ouais.
Donc, tous ces éléments, il faut juste dire qu'on les retrouve à l'exutoire. Et c'est un élément de perturbation.
Ça envase la rivière, quoi, c'est ça ?
Alors, ça envase la rivière, mais ça peut aussi être la rade de Brest.
Ouais. Mmh.
Et donc, ces questions-là sont maintenant très importantes à prendre en compte, non pas pour culpabiliser, mais pour faire évoluer les pratiques, pour que tout ça s'améliore au plus vite. Au bénéfice de chacun.
Eh bien, je vous remercie tous les trois. Je rajoute d'ailleurs, puisque les pagas est là, qu'il y a une visite ce lundi à Plébin avec une soixantaine d'acteurs du bocage dans une ferme de Plébin à propos du rendez-vous au pied de la haie. Quelles essences planter face au changement climatique ? J'imagine que c'est plutôt le programme Braise Bocage. Mais bon, puisqu'on y est, annonçons-le. Et puis, on retrouvera encore les pagas très bientôt, la saison prochaine, sans doute, dans l'EM. Merci beaucoup. Vous pourrez réécouter cette émission sur le site internet de la radio.
Merci.